Le Bangladesh, jeune démocratie, se devait de posséder sa compagnie aérienne. La Biman Bangladesh Airlines avait pour slogan « Majestic all the way, fly Biman », déclaraient des affiches publicitaires sises entre les dépotoirs et les bidonvilles. Nous obéissions à cette injonction. Au moins une fois par mois, nous nous rendions à l'aéroport de Dhaka, qui ressemblait à une caserne de province munie d'un parking pour nous envoler. Une armada de Fokkers, délaissés par les pays industrialisés, s'offrait à nous conduire à Chittagong, Mémensingh, Sylhet ou Cox Bazar. Rétrospectivement, je comprends le fol attrait que ces toponymes exerçaient sur mon père. Mais à l'époque, ma sœur et moi déplorions cette curiosité que nous ne partagions pas et qui nous valait d'être si souvent transbahutés en des lieux improbables, d'autant que pour nous y rendre, nous n'avions pas le choix, il fallait prendre l'avion. Les Fokkers de la Biman Bangladesh explosaient régulièrement en vol, ainsi que leurs passagers. Si la presse en parlait peu, ce n'était pas par manque de liberté, mais par manque d'intérêt. Au Bangladesh, mourir était la banalité même. Trépasser dans un accident d'avion ou des causes habituelles, la belle affaire. En avion, ma sœur et moi échangeions les raisons qui nous attachaient à cette existence terrestre. La conclusion ne différait jamais. J'aime surtout être ta sœur. Nous souhaitions que le crash aérien nous tue ensemble. Les hôtesses m'adressaient des sourires attendris et me tendaient les chocolats de la ligne aérienne, dans lesquels on trouvait des cancrelats momifiés. Il n'était pas rare que le vol traverse un orage de mousson. La convulsion des éclairs nous secouait si fort que mon père mentait. Je me rappelle lui avoir demandé s'il avait autant peur que moi. Verdâtre, il répondit ce double mensonge. « Non, il y a un paratonnerre. » Le bon côté de ces voyages était qu'à l'atterrissage, on était pris d'une bouffée de joie. Nous avions survécu. Hélas, dès l'aéroport de province, nous étions alpagués par les officiels. Il paraissait tellement incroyable qu'un ambassadeur veuille leur rendre visite qu'une délégation déployait des flanflons divers et variés. L'intention était louable, mais le résultat affligeant. Mon père et ma mère se prêtaient de bonne grâce à ces pantomimes. Juliette et moi avions du mal à faire bonne figure. Nous avions 14 et 11 ans, ne pas bouder requérait déjà beaucoup d'efforts. Nous découvrîmes les mairies et les palais des gouverneurs des provinces les plus reculées du Bangladesh. Il s'agissait de bâtiments récents et pourtant l'air saturé d'humidité les transformait presque aussitôt en ruines. Pendant que des dignitaires expliquaient à mon père en quoi la région était prépondérante dans l'histoire du pays, je me rendais aux toilettes que je découvrais squattées par une famille de grenouilles. Les rares fois qu'il nous était loisible de nous éloigner des délégations, nous observions les diverses variétés de misère d'une population fascinante. La mort sans cesse en action ne laissait de répit à personne. Les gens sentaient si fort sa présence qu'ils avaient les yeux en feu. Toute occasion était bonne pour commencer un concert d'improvisation. S'il y avait un sarod, c'était encore mieux. La nuit, les chauves-souris dominaient le ciel. J'essayais en vain de comprendre pourquoi mon obsession aviaire ne les incluait pas. Qu'elles fussent des mammifères n'était pas une explication suffisante. Sylhet fut l'une des villes qui me plurent le plus. Elle était entourée de jungles qui me passionnaient bien davantage que les rizières. C'est là que je vis ce que je pris d'abord pour une de ces chauves-souris qui régnait la nuit en maîtresse du ciel et qui s'avéra mériter le nom fabuleux d'engoulevent oreillard. Cet oiseau avait l'apparence d'un dragon. Il poussait des cris qui ressemblaient à un sifflement approbateur. Le voir de près stupéfiait. Deux oreilles pointues entouraient un faciès de gargouille qui exprimait une colère hors du commun. le mâle ne se différenciait pas de la femelle. L'engoulevent oreillard volait silencieusement en cercle, à la recherche d'insectes qu'il accumulait dans son jabot. Son plumage se confondait avec le sol où il vivait le jour. À la tombée du soir, il s'élançait dans le ciel. La nuit, il préférait se poser sur les hautes branches. J'éprouvais d'emblée pour lui une passion. Pour d'obscures raisons, cet élan alla jusqu'à l'identification. Cela me valut des « tu n'es pas si moche que ça quand même » qui soulignèrent l'ampleur du malentendu. Moi, je le trouvais magnifique. Son nom parlait pour lui. Étymologiquement, il était celui qui avale le vent. Une telle aérophagie laissait perplexe. Sauf que pour ma part, j'y entendais autre chose. Il était celui qui avait l'aval du vent. Son vol le confirmait. Il fallait le voir tutoyer Éole, se glisser entre deux courants, emprunter le couloir d'air qui le propulserait en plein ciel en moins d'une seconde, puis dévaler tant d'altitude pour le plaisir et se rattraper juste avant le sol. « Voler comme l'oiseau !» dit la chanson. « Oui, mais lequel ?» Qu'y a-t-il de commun entre le vol du canard colvert et celui de l'engoulevent ? Pour les bouseux que nous sommes, voler comme un canard paraît déjà formidable. Nul doute que l'engoulevent s'offusque de la pantomime du balourd, surtout au moment où il s'envole. On dirait un gros oncle se décidant enfin à se lever pour aller chercher une bière. La nature profonde de l'engoulevent, c'est de voler. Je soupçonnais qu'il avait choisi d'être insectivore juste pour s'alimenter en vol. J'observais que, pour boire, il préférait attendre la pluie. Ainsi, il pouvait se désaltérer dans l'espace. Il n'était pas jusqu'à son expression furieuse qui ne s'expliqua par mon principe. Dès qu'il atteignait la limite de ses forces et devait se poser, il enrageait. À l'aide d'une paire de jumelles, j'épiais son visage quand il volait. Pour autant qu'il fût possible de saisir l'humeur de qui bougeait sans cesse, il me sembla qu'il n'avait plus son air courroucé. L'affût du regard changea ma vie. Une absence de don pour la photographie m'empêcha de devenir chasseresse d'images. Ce fut toujours avec mes yeux que j'enregistrais les oiseaux, dont les physionomies s'imprimèrent dans ma mémoire au point d'en modifier le fonctionnement. L'engoulevent métamorphosa mon cerveau. L'oiseau m'apprit à faire flèche de tout bois, à mépriser la pesanteur quand on pouvait si facilement se jouer d'elle pour s'ébattre dans les airs. La vitesse n'était pas le but. Quel piètre objectif, mais la condition sine qua non de l'existence qui permettait d'échapper aux prédateurs par la seule élégance qui vaille, le plaisir. Dira-t-on jamais assez la jouissance de l'engoulevent? Il se jette dans le vent comme dans la volupté. Tour à tour, il le contre, puis lui obéit, puis l'étonne, puis s'offre. Il est l'amant génial du courant d'air. À Silette, la jungle était entrecoupée de jardins de thé. Je n'en avais encore jamais vu. Rien ne ressemble autant à l'idée du paradis. Ce vert tendre, ces moutonnements de terrain et l'humidité délicate qui s'en dégage, autant de douceur installée sur la terre, avec, pour écrin, la forêt de la préhistoire. J'aurais voulu vivre là, à l'exemple de l'engoulevent. Tant qu'à nicher au sol, quelle riche organisation de loger sous les plantations d'arbres à thé. Mon identification n'en fut que plus précise. Le thé, ma boisson de prédilection, me reliait à l'engoulevent. Il ne me restait qu'à inventer une manière de voler. Ce devint mon rêve récurrent. Il suivait toujours le même schéma. Je découvrais la gymnastique qui permettait l'envol. Cela ne manquait jamais d'être une succession de gestes simples. Consciente de rêver, j'ancrais le mouvement dans mon corps en me répétant « Tu te rappelleras quand tu t'éveilleras. C'est trop facile. » Après quoi, je m'envolais et surplombais des territoires superbes, en proie à l'extase. Au réveil, je souriais. Mon squelette se souvenait de la gymnastique adéquate. Je me levais, l'essayais et restais clouée au sol. Pourtant, ma foi restait intacte. L'enseignement onirique ne pouvait pas mentir. J'avais du mal m'y prendre. La sensation d'avoir volé et d'en être capable était inscrite trop profondément en moi. Pour rentrer à Dhaka, nous remontions dans un avion de la Biman Bangladesh. Le sigle en était une cigogne. Loin de moi le souhait de nier le prestige de cet oiseau, mais je n'en ai jamais vu dans ce pays. Cela ne signifiait pas qu'il n'y en avait pas. Néanmoins, je n'ai pas compris pourquoi la Biman n'avait pas choisi pour symbole l'engoulevent oreillard. Le vol aventureux des Fokkers de cette compagnie évoquait bien davantage les prises de risque de l'engoulevent que la calme croisière de la cigogne. Au fond, cela n'eût pas dû m'étonner. La symbolique ne s'embarrasse guère de vraisemblance. L'animal qui représente la Belgique est le lion. Sans commentaire.